c'est le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'Italie affirme sa ligne dure avant le mini-sommet de Bruxelles sur le défi migratoire en Europe. Entretien téléphonique du président du Conseil italien hier soir avec la chancelière Merkel. Et Rome menace toujours ce midi de placer sous séquestre deux navires d'une ONG allemande dont l'un navigue en mer avec 224 migrants. Explication à suivre d'Antonino Gallofaro et analyse sur les enjeux de la réunion de dimanche depuis Bruxelles avec Pierre Benazé. L'Union européenne ce vendredi, c'est aussi la guerre commerciale qui démarre avec les États-Unis, une dizaine de produits américains dont le tabac et les jeans désormais taxés en Europe. La Grèce qui tourne une page après l'accord de la zone euro sur sa dette hier soir, mais dont l'indépendance financière reste toute relative. La France, avec de nouveaux documents attribués au service secret libyen et publiés par le site internet Mediapart, documents qui détaillent les préparatifs de l'attentat du DC10 d'UTA. Interview dans un instant du journaliste Fabrice Arfi. Nous irons aussi à Lyon, où Marion Maréchal vient d'inaugurer son école de management, l'ICEP. Explication de Stéphane Robert et puis analyse de Pascal Tournier pour la séquence interview, rédactrice en chef adjointe à l'hebdomadaire La Vie. Le vieux monde est de retour, c'est le titre de son enquête publiée chez Stock sur les nouveaux conservateurs. Au sommaire de la deuxième partie de la Grande Table, Olivia.
Ce n'est pas un scénario d'anticipation, c'est déjà une réalité. Ce sont tous les pans de la justice qui sont aujourd'hui concernés, de la production de la norme au jugement. On va parler de ce que le numérique et cette révolution technologique fait à la justice aujourd'hui avec nos deux invités, le magistrat Antoine Garapon et l'épistémologue Jean Lasset, qui seront avec nous à partir de 12h55.
Merci Olivia et à tout à l'heure. Quelques jours après le feuilleton de l'Aquarius, ce navire humanitaire associatif que l'Italie a refusé d'accueillir sur son sol, la crise se rejoue. Deux nouveaux bateaux d'une ONG allemande subissent actuellement des difficultés pour accoster en Italie. Ce midi, l'un des deux navires transporte 200 migrants qui ont été secourus au nord des côtes libyennes. Bonjour Antonino Gallofaro.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Rome. Le gouvernement italien utilise des arguments de procédure pour éviter que les personnes secourues puissent demander l'asile en Italie.
En effet, Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur, poursuit sa guerre contre l'immigration. Il fait tout pour limiter l'arrivée de migrants en Italie. Il continue donc pour cela de s'en prendre aux ONG opérant en Méditerranée. Celles qui sont en mer pour éviter les naufrages meurtriers sont souvent étrangères. Donc pour celui qui est toujours le chef du parti d'extrême droite, la Ligue, pas question qu'elles attachent leurs amarres sur la péninsule qui, selon lui, a déjà beaucoup trop fait. Après l'Aquarius, nouveau blocage donc de deux navires avec des menaces bien plus fortes, cette fois en particulier contre Lifeline. Selon Rome, ce bateau est hors la loi car il aurait opéré en eau libyenne et il aurait aussi menti sur son pavillon hollandais, ce que dément l'ONG. Si le navire devait donc accoster en Italie, il ne pourrait le faire qu'en étant vide, sans migrants. Et comme prévient Matteo Salvini, il serait séquestré et son équipage accusé de favoriser l'immigration clandestine.
Alors cette nouvelle crise, elle intervient à l'avant-veille d'un mini-sommet européen sur l'immigration et Rome use de toutes les pressions pour pouvoir peser dans les débats.
Le nouveau gouvernement estime que ces dernières années, l'Italie n'a jamais été écoutée sur la question, qu'elle a été abandonnée par ses partenaires européens. Alors, pour se faire entendre, elle utilise aujourd'hui la manière forte. Rome avait même laissé planer le doute sur sa participation au sommet de dimanche. Par téléphone hier, la chancelière allemande Angela Merkel a rassuré le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Un brouillon de texte conclusif existait bel et bien, mais il a été écarté. Pour l'Italie, il était impensable de se présenter à Bruxelles si des décisions avaient déjà été prise en amont. Le nouveau président du Conseil applique ici la politique dessinée par la Ligue, mais aussi par les antisystèmes 5 étoiles, les deux actionnaires de ce gouvernement. Il ne fait donc que ce qui a déjà été annoncé dans leur programme commun, une ligne bien plus dure contre l'immigration, visant à diminuer le nombre d'arrivées et à augmenter les expulsions au détriment de l'accueil.
Merci Antonino Gallofaro pour vos explications en direct de Rome. Le mini-sommet de dimanche va de nouveau mettre en débat la procédure de Dublin, ce règlement qui stipule que le pays responsable de la demande d'asile d'un migrant est le premier État où sont conservées ses empreintes digitales. Il sera aussi question de la répartition par quota des réfugiés au sein des 28 pays de l'Union européenne. Bonjour Pierre Benazé.
Est-ce que vous m'entendez ?
Nous vous entendons, bonjour, vous êtes en direct de Bruxelles. Quels sont les équilibres en présence pour ce mini-sommet de Bruxelles, dimanche ?
Disons que pour ce mini-sommet informel le dimanche, l'équilibre est un peu plus simple que celui qui régnera lors du sommet à 28, jeudi et vendredi, mais uniquement à cause du nombre restreint de pays qui ont répondu à l'invitation de la Commission européenne, 10 pays seulement pour l'instant. En revanche, les trois tendances lourdes qui divisent l'UE seront bien représentées, malgré l'absence des quatre pays du groupe de Visegrad, puisque sera présent leur allié en Europe centrale, le chancelier autrichien Sébastien Kurz. Au centre de l'échiquier se trouve la position de la présidence bulgare de l'UE, soutenue par la Commission européenne, l'Allemagne et la France. Pour eux, il faut maintenir le règlement de Dublin et graver dans le marbre le retour des migrants dans le pays par lequel ils sont entrés dans l'UE et qui doit donc gérer leur demande d'asile. Ils préconisent aussi une répartition par quota entre tous les États membres, mais uniquement au cas par cas et en cas de crise. C'est ce que dénoncent les pays méditerranéens de l'UE, dont l'Espagne et surtout l'Italie. Pour eux, ce n'est pas assez. Ils réclament à cor et à cri la fin du règlement de Dublin. Ils appellent à la solidarité européenne pour partager le fardeau. Et la troisième tendance consiste à dire que c'est trop, qu'il n'est pas question de répartition par quota. C'est la position des pays d'Europe centrale que représentera donc le chancelier autrichien dimanche.
Pierre Benazé, merci. Vous étiez en direct de Bruxelles. Est-ce vraiment une page qui se tourne pour la Grèce ? Les ministres des Finances de la zone euro sont parvenus hier soir à un accord d'allègement de la dette du pays, ce qui devrait permettre à Athènes de se financer de nouveau sur les marchés financiers cet été. 3 ans après avoir fraudé le Grexit et 10 ans après une violente crise financière, c'est une petite bouffée d'oxygène pour les habitants. Une simple petite bouffée d'air, Marie Viennot, car derrière les effets d'annonce, la situation financière du pays, elle est loin d'être réglée et son indépendance reste toute relative.
Oui, la Grèce retrouve des marges de liberté, mais ses créanciers ont tout de même tenu à maintenir la relation ancienne, argent contre réforme. Pour comprendre, il faut revenir au début de la crise grecque. En 2010, les marchés attaquent la Grèce, les taux d'intérêt s'envolent. La Banque Centrale Européenne fait alors ce qui semblait inimaginable auparavant. Elle achète des titres de dette grecque. Ces titres, ils ont été distribués aux banques centrales de chaque pays en fonction du poids économique de chacun. L'Allemagne et la France en ont donc beaucoup. Quand on a un titre de dette, on touche un coupon, c'est-à-dire un intérêt. Or, la somme totale de ces intérêts faits sur la dette grecque n'est pas du tout négligeable. C'est 8 milliards d'euros entre 2012 et 2016, selon la BCE. En 2012, il avait été convenu que cet argent serait rendu à la Grèce. Mais Alexis Tsipras a été élu, il a énervé tout le monde, en gros, et les États de la zone euro ont finalement gardé l'argent pour eux à partir de 2015. Alors hier, bien sûr, on a reparlé de ce sujet, et les États de la zone euro ont accepté qu'à partir de 2017, ces intérêts seraient de nouveau rendus à la Grèce. Mais 2016-2015, là, perdu. Or, là encore, la somme n'est pas négligeable. Pour l'Allemagne, on a appris hier que c'était 3 milliards d'euros. Alors hier, la Grèce a quand même obtenu le remboursement de cet argent, mais à une condition, et c'est là qu'on voit que la conditionnalité reste, cet argent lui sera versé seulement si elle continue d'appliquer les réformes engagées. Tous les 6 mois, il y aura donc une décision à ce sujet, après un examen approfondi de la situation financière grecque. On n'est donc pas très loin de ce qui se passe, et jusqu'à maintenant, même si les montants en jeu sont moindres.
Merci Marie Viennot pour votre analyse. Une Union européenne beaucoup plus tonique, si l'on peut dire, sur le front commercial. Les 28 ripostent depuis la nuit dernière aux taxes sur l'acier et l'aluminium imposées par les États-Unis. Des taxes qui vont de 10 à 25%, c'est loin d'être anecdotique et c'est une décision unilatérale et injustifiée, a encore rappelé cette semaine la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström. Depuis ce matin, donc, Bruxelles impose des droits de douane additionnels sur des dizaines de produits américains. Bonjour Maïwenn Bordron.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Quelles conséquences pour les consommateurs européens et donc français ?
Eh bien, la liste des produits américains visés par les nouvelles taxes européennes est longue, 182 exactement. On y trouve plusieurs catégories comme l'alimentation. Le prix des haricots, du maïs et du riz américain va par exemple augmenter. Mais selon Lionel Fontanier, professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et spécialiste des politiques commerciales, il n'y aura pas de réel impact pour le consommateur européen.
Les produits ont été choisis à chaque fois comme ayant des substituts. Par exemple, au lieu d'acheter un blue jean qui vient des États-Unis, vous pouvez acheter un blue jean qui vient du Mexique. Au lieu d'acheter du whisky qui vient des États-Unis, donc du bourbon, vous pouvez acheter du whisky européen. Donc il y a plein de substituts possibles et donc le consommateur n'est pas a priori pénalisé. Ce n'est pas comme si les États-Unis avaient un monopole sur les produits qui sont concernés.
Certaines taxes sont en fait surtout symboliques. C'est le cas des motos et de la marque Harley-Davidson, un des emblèmes des États-Unis. Difficile de trouver des substituts à ce genre de produit. Un consommateur qui veut une Harley-Davidson ne voudra pas forcément acheter une Triumph de marque anglaise, par exemple. Mais là encore, l'impact sera minime, selon l'économiste Lionel Fontanier.
L'avantage de frapper ce genre de produit, c'est que ce sont des achats que vous pouvez reporter. Une moto, c'est comme une voiture, vous ne changez pas de moto toutes les semaines. Et donc, s'il y a des taxes qui sont imposées pendant 3 mois ou 6 mois, vous pouvez reporter votre achat.
Ce qui n'empêche pas les concessionnaires français Harley-Davidson d'être inquiets. L'un d'entre eux me confiait ce matin n'avoir aucune information de la part de la maison mère américaine sur l'augmentation du prix d'achat, tout en affirmant que ses clients seraient forcément impactés.
Les explications de Maïwenn Bordron. En Espagne, c'est toujours la colère à Pamplune, dans le nord du pays. Ce midi, des milliers de femmes sont descendues dans les rues. Hier soir, elles protestent contre la mise en liberté provisoire de la meute. 5 jeunes originaires de Séville. Ils ont abusé d'une jeune femme de 18 ans sans être condamnée pour viol. Marie-Hélène Ballestero, vous suivez cette affaire pour France Culture.
Des milliers de femmes espagnoles ont envahi les rues hier après-midi après la décision du tribunal de Pamplune. La remise en liberté provisoire des 5 jeunes sévillans de la meute indigne profondément les Espagnols qui n'entendent pas se taire. Le mois dernier, elles étaient déjà descendues en masse dans la rue lorsque ce même tribunal de Pamplune avait condamné les 5 hommes seulement pour abus sexuels sur une jeune fille de 18 ans pendant les fêtes de la Saint-Fermin à l'été 2016. Les juges n'avaient pas retenu alors la qualification de viol alors que les 5 sévillans de la meute avaient filmé leurs actes. Hier, la décision des juges du tribunal de Pamplune a provoqué une nouvelle vague d'indignation et de mobilisation. À Barcelone, Bilbao, San Sebastián ou à Pamplune, les slogans étaient les mêmes. Assez de violence machiste face à la justice patriarcale, autodéfense féministe ou encore justice de merde. Des messages qui montrent bien la colère des Espagnols qui comptent envahir les rues dans les prochaines heures. Sur les réseaux sociaux, les organisatrices utilisent d'ailleurs le hashtag « Si la meute sort, nous sortons dans les rues aussi ». Et c'est ce qu'elles vont faire cet après-midi dans de nombreuses villes à travers tout le pays, et notamment à Madrid à 19h, où elles se sont donné rendez-vous devant le ministère de la Justice.
Correspondance à Madrid de Marie-Hélène Ballestero. En France, de nouveaux documents attribués au service secret libyen et publiés par le site internet Mediapart détaillent les préparatifs de l'attentat du DC-10 d'UTA. C'était en 1989, 170 morts dans l'explosion de cet avion qui devait relier Brazzaville à Paris. Mediapart met en lumière le rôle d'Abdallah Senoussi, le beau-frère de l'ex-guide libyen Muammar Kadhafi, un homme déjà condamné par contumace à Paris en 1999 en lien avec cet attentat. Mais cette enquête, elle rejoint aussi l'instruction en cours sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Instruction dans laquelle l'ancien chef de l'État a été mis en examen pour corruption passive. Et l'enquête de Mediapart apporte des éléments nouveaux en ce sens, explique l'un de ses auteurs, le journaliste Fabrice Arfi. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, invite le Premier ministre Édouard Philippe à un débat télévisé sur l'enjeu du service public du ferroviaire. « Nous avons réussi à faire en sorte qu'on puisse en parler, mais pas suffisamment », a-t-il insisté. Un nouvel épisode de grève est en cours ce vendredi, mais le trafic est moins perturbé que ces dernières semaines, avec 9 TGV sur 10 en circulation, 3 TER sur 5 et 2 Transiliens sur 3. Elle fait de la politique sans en faire, tout en faisant. Commentaire de Benjamin Griveaux ce matin au sujet de Marion Maréchal, dont l'école LICEP vient tout juste d'être inaugurée à Lyon. La popularité de l'ex-députée du Vaucluse grimpe chez les sympathisants de droite, selon un sondage BVA. Elle dépasserait même la popularité du président des Républicains, Laurent Wauquiez, qui se serait dit obnubilé par la nièce de Marine Le Pen. Marion CEP dit vouloir développer le terreau dans lequel tous les courants de la droite pourront se retrouver et s'épanouir. Nous avons donc un problème avec notre... on n'a pas le son de Marion Maréchal pour l'instant, mais Stéphane Robert est avec nous.
Bonjour Anne.
En studio, merci Stéphane. Avec l'ICEP, Marion Maréchal se défend de vouloir faire de la politique électorale. Elle laisse planer le doute sur ses réelles ambitions, mais elle semble extrêmement bien placée pour réunir cet espace politique, désormais poreux, entre la droite et l'extrême droite.
Oui, Marion Maréchal, qui sait que le moment n'est pas encore venu pour une recomposition des droites. C'est pour ça qu'elle reste, pour le moment, dans une sorte de pénombre de la vie politique française, à la fois très active et en même temps dans une position d'observatrice. Et c'est assez habile parce que si l'on dresse le tableau du paysage politique français, on voit qu'à gauche, les partis politiques se sont effondrés, en particulier le PS, et que c'est un mouvement politique qui a pris le relais avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Au centre, même chose, En Marche n'est pas vraiment un parti, c'est un mouvement, une nébuleuse qui regroupe des sympathisants plus ou moins critiques, de droite et de gauche, ou ni à droite ni à gauche, qui viennent, qui vont, qui reviennent. À droite, en revanche, c'est différent. Vous avez encore deux formations politiques assez structurées, quoique toutes les deux affaiblies, Les Républicains et le Rassemblement National, ex-Front National. Et leurs deux leaders, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, essaient tous deux de s'extraire de la structure étriquée de leur formation politique. Laurent Wauquiez drague les électeurs frontistes pour essayer d'élargir son électorat potentiel. Marine Le Pen a changé le nom de son parti pour tenter de nouer des alliances. Et on voit dans les différentes enquêtes réalisées qu'il y a une porosité de plus en plus grande entre les deux électorats frontistes et LR. Et c'est là qu'on voit que la position de Marion Maréchal Le Pen est idéale et son attitude très habile. Parce que d'une part, elle attend que la déflagration qui a détruit les structures partisanes à gauche poursuive son œuvre à droite. Et d'autre part, elle anticipe une recomposition transcourant dont elle pourrait devenir l'égérie. Et donc elle gomme de son nom le patronyme Le Pen pour couper le cordon ombilical et ne plus se faire appeler que Marion Maréchal. Elle s'associe à la création d'un journal mensuel, L'Incorrect. Elle participe à la création de cette école à Lyon. Et elle sait qu'elle est encore très jeune et que le temps joue en sa faveur.
Merci Stéphane Robert pour votre analyse. On ne peut pas malheureusement écouter Marion Maréchal, on a un petit problème technique, vous l'avez compris, nous en sommes désolés. Et je me tourne donc vers l'invité de la séquence interview, Pascale Tournier, bonjour.
Bonjour Anne.
Rédactrice en chef adjointe au service actualité de La Vie. Le Vieux Monde est de retour aux éditions Stock. Vous êtes l'auteur de cette enquête sur les nouveaux conservateurs. Si elle le veut aujourd'hui, Marion Maréchal, elle est très bien placée. Stéphane Robert le disait, pour créer ce pont entre la droite et l'extrême droite. Votre commentaire à ce sujet?
Alors, moi, je pense qu'elle fait le pari que pour gagner, pour effectivement réaliser cette fameuse union des droites qui, on le sait, dans le cours de l'histoire, s'est assez peu produite finalement. On peut citer le général de Gaulle et un petit peu Nicolas Sarkozy qui a essayé aussi de vraiment rassembler ces deux droites. Je pense qu'elle fait le pari de se dire qu'il faut d'abord changer les mentalités. Ça se passe par la base, par le bas, par le combat culturel et non pas par les structures partisanes. Donc cette école s'inscrit véritablement dans ce pari, dans cette logique qui est de vraiment véritablement former des esprits, des convictions, donc toute une jeune élite, des cadres. Alors je ne pense pas qu'elle soit dans l'optique de vraiment créer des bataillons en sa faveur. Non, mais c'est plutôt vraiment une révolution culturelle. Elle avait utilisé un petit peu sur le mode de la boutade lors de cette soirée où elle est apparue là récemment dans le cadre d'une toute une réflexion sur mai 68, qu'est-ce qui pouvait rester, quel était l'héritage vu par le biais de la droite. Elle avait dit qu'elle voulait créer les nouveaux 2068 arts. Et je pense que voilà, elle est vraiment dans cette optique-là de vraiment changer les mentalités, de que des gens puissent porter des valeurs, une vision du monde qui est différente de celle de, on va dire, ce qu'ils appellent la pensée dominante de gauche, si on se met à leur place.
Alors on dit qu'elle a déjà reçu assez de dossiers pour constituer une promotion. Vous avez des informations à ce sujet, une cinquantaine de dossiers.
Je pense que déjà pour créer une école et avoir des élèves, c'est assez compliqué. Il y a aussi la question des financements. Apparemment, elle veut faire payer ses cours, donc c'est assez compliqué. Je pense qu'aussi, ce qui est assez difficile, c'est que les gens, s'ils s'inscrivent dans le cadre de cette école, il y a quand même le sceau, qu'on le veuille ou non, même si elle a retiré la mention Le Pen à son nom. Voilà, on est quand même assez vite étiqueté pour ceux qui veulent suivre les cours sur ce côté école de Marion Maréchal. Je crois, d'après mes informations, qu'il commence à y avoir des noms qui sortent aussi au niveau des conférenciers. Moi, je peux vous citer deux noms qui ne sont peut-être pas très connus du grand public. Il y a Olivier Rey et Vincent Coussedière. Alors, je trouve ce qui est assez intéressant dans le cadre de Olivier Rey, c'est qu'il participe beaucoup à tout cet écosystème, ce microcosme qui est en train d'aujourd'hui d'exister, que ce soit, donc il écrit par exemple dans la revue L'Incorrect. Donc, vous avez aujourd'hui, c'est là que c'est assez intéressant, c'est que vous avez effectivement des figures politiques comme Marie-Maréchal, mais vous avez des revues comme L'Incorrect, vous avez aussi des journalistes qui sont, qui certes, par exemple, vont être à Valeurs Actuelles, je vais en citer une, par exemple, Charlotte Hélas, qui est journaliste à Valeurs Actuelles, mais qui va aussi maintenant participer à des émissions dans des médias, je dirais, qui ont pignon sur rue. Donc, vous avez vraiment aujourd'hui, c'est là où vraiment on voit que c'est la bataille culturelle qui est en l'œuvre, où ils essayent de ratisser les lieux d'influence, aussi bien politique que médiatique, que dans le domaine d'éducation.
Alors justement, je voudrais revenir sur votre livre, Le Vieux Monde est de retour, une enquête sur les nouveaux conservateurs. Ce mot de conservateur, vous y consacrez pas mal de pages d'ailleurs. C'est quoi être conservateur aujourd'hui en France, si on peut s'essayer à une courte définition?
Alors, c'est vrai que je fais vraiment la distinction avec le mot réactionnaire, parce que rapidement, quand on colle le mot réactionnaire, très vite, ça nous ramène aux sombres heures de l'histoire. Donc par rapport à cette terminologie réactionnaire-conservateur, on va dire que le conservateur aujourd'hui a une certaine un regard un peu circonspect vis-à-vis de la modernité, vis-à-vis de la technique, et qui s'appuie sur la notion, on va dire, d'enracinement. C'est-à-dire qu'effectivement, il va s'inscrire dans une forme de tradition. Donc on est vraiment entre, je dirais, si je prends les deux bouts, d'un côté réactionnaire, d'autre côté progressiste, et le conservateur se situe au milieu.
Stéphane Robert.
Qu'est-ce que vous voulez dire c'est ça que vous voulez dire, le vieux monde est de retour. Est-ce que c'est vraiment le vieux monde qui est de retour, ou est-ce que c'est des valeurs du vieux monde? Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement avec ce titre-là?
Alors, ce titre, le vieux monde, je l'ai emprunté, on va rendre à César ce qui est à César, je l'ai emprunté à Eugénie Bastier, qui est une jeune journaliste qui aujourd'hui, comme vous le savez, travaille au Figaro, et qui a lancé cette phrase un peu sur le mode, un peu de la provocation à Jacques Attali lors d'une émission télévisée il y a quelques années, en disant, Monsieur Attali, en gros, le vieux monde est de retour. Et je trouve que c'est assez emblématique, assez symbolique cet échange, parce que vous avez d'un côté effectivement cette jeune Eugénie Bastier qui, comme vous le savez, donc travaille au Figaro, travaille aussi à la revue Limite, dite de bioconservateur, donc très intéressée sur la question d'écologie, donc écologie plutôt de droite, même si commence à tourner un peu plus vers la gauche aujourd'hui. Et vous avez une fille aussi, une jeune fille aussi, qui a un compte Twitter très très suivi, c'est un média quasiment à part entière. Donc cette jeune femme incarne une nouvelle génération et qui s'adresse à Jacques Attali, qui est, pour le coup, incarne aussi une autre génération. Donc c'est la génération Mitterrand, c'est la génération des élites dites mondialisées. Donc voilà, je pense que cette expression vraiment résume bien le face-à-face qui existe aujourd'hui entre une nouvelle jeune génération qui s'est dit de droite, conservatrice, qui n'a plus peur de se dire de droite, qui n'est plus du tout complexée et qui veut essayer justement de balayer cette ancienne génération plus, on va dire, social-démocrate.
Vous parlez d'ailleurs de 68 arts à l'envers pour décrire cette jeune génération d'éditorialistes.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un titre, là aussi, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est un titre qui vient d'un livre de Gaël Brustier, qui avait ausculté qui avait décidé de comprendre ce mouvement de la Manif pour tous, des Manifs pour tous, puisque maintenant, il y a certes une association, mais vraiment toute cette jeune génération, en fait, pour beaucoup, ont défilé lors de ces manifestations contre le mariage pour tous. Donc, il y a eu des réseaux qui se sont tissés. C'est aussi d'ailleurs la vocation de cette école, de Marion Maréchal Le Pen. Moi, je l'appelle encore Marion Maréchal Le Pen. C'est le but aussi affiché. C'est vraiment constituer des réseaux. Et ils existent. Ils sont de plus en plus structurés. Moi, je vais vous donner un petit exemple très, très concret. J'ai assisté au lancement de la revue L'Incorrect, qui était il y a un an exactement, un peu moins d'un an, même au mois de septembre dernier. Il y avait du monde. Il y avait toute cette jeune génération qui regroupait des associatifs, des gens, des journalistes, des éditorialistes. Et j'ai été à cette rencontre où Marion Maréchal était présente, organisée par les éveilleurs d'espérance et L'Incorrect. J'avais 3 à 4 fois plus de monde. Donc on sent bien qu'il y a quand même progressivement une dynamique des réseaux qui existent et qui sont de plus en plus organisés.
Merci Pascal Tournier pour votre expertise. Le Vieux Monde est de retour aux éditions Stock. Vous êtes l'auteur donc de cette enquête sur les nouveaux conservateurs. Merci beaucoup. La météo avec un ciel ensoleillé sur la majeure partie du pays, même s'il y aura quelques pluies sur le piémont méditerranéen et sur les Alpes avec des risques d'orages. Un vent également soutenu dans la vallée du Rhône et les températures cet après-midi, 17 à Lille, 19 à Brest, 21 à Paris et Strasbourg, 23 à Lyon et jusqu'à 28 à Marseille. Journal préparé avec Yacine Bouzard. Prochain journal à 18h, vous retrouverez Benoît Bouscarel. 12h55 sur France Culture.